la naissance de Karl Marx. C'est le sujet que nos deux débatteurs ont tous les deux choisi d'évoquer aujourd'hui. C'était samedi, hein, la date, le 5 mai. Le PTB de David Pestiot a d'ailleurs organisé quelques activités, festivités. D'autres partis communistes dans le monde l'ont fait également. Et pour l'anecdote, la ville de naissance de Marx, Trèves, lui a même dressé une statue, ce qui n'a d'ailleurs pas fait l'unanimité puisqu'il y a eu des manifestations pour le dénoncer. On écoute d'ailleurs le maire de Trèves. Je pense que s'il y a bien une ville qui peut avoir une statue de Karl Marx, c'est sa ville natale. C'est tout à fait approprié étant donné l'importance du personnage, que vous nous souteniez ou non.
Von Karl Marx, egal wie man jetzt zu ihm steht.
Voilà, il y a eu pas mal de manifestations positives et négatives opposant ou soutenant cette initiative d'une statue de Karl Marx. David Pestiot, vice-président du PTB, responsable du service d'études, c'était vraiment une date importante pour vous, le bicentenaire de la naissance de Karl Marx?
Oui, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a, d'une certaine manière, révolutionné la pensée politique et économique. D'abord parce que je pense qu'il a touché une question, donc on a abordé tout à l'heure la question de qui crée les richesses, qui est au départ de la création de richesses dans une société, ça détermine évidemment les choix politiques.
Et le départ, c'est le travail. Hein.
C'est le travail, c'est la source de la richesse, et là, je veux dire, on peut prendre l'exemple récent de Lidl, où on a vu l'opposition entre, ben, d'un côté, une entreprise et des travailleurs, 315 000 travailleurs dans 25 pays, et puis, d'autre part, une famille qui gère Lidl, Schwarz, hein, fortune 37 milliards. Bon, on voit que cette fortune s'est agrandie de manière colossale. On est passé de 10 milliards à 37 milliards en quasiment 10 ans. Et évidemment, ce n'est pas le fruit du travail de M. Schwarz, c'est le fruit du travail de ces travailleurs et travailleuses dont l'exploitation a été augmentée. On peut le voir, je veux dire, on a vu les témoignages, je veux dire, c'est vraiment... on dit le temps c'est de l'argent, Marx le disait d'ailleurs déjà, il disait c'est une bataille entre le maximum qu'on peut tirer du temps de travail et avec le minimum de salaire. Ça c'est l'enjeu qui a été, et donc les travailleurs réagissent et ils veulent avoir un peu plus de salaire et un peu plus de temps, et on le voit avec Lidl, cette opposition, cette lutte de classe. Et il a dit, c'est pas une idéologie, il a dit c'est une constatation qu'on peut faire. Il y a une opposition entre des classes différentes et avec des intérêts différents sur la question de qui va prendre cette richesse et au service de quoi. Et deux, il a posé évidemment, et ça je pense que c'est aussi révolutionnaire, c'est un changement de paradigme, comme d'autres en sciences l'ont fait, comme Galilée l'a fait, comme Copernic l'a fait ou Darwin, dans les sciences économiques et politiques, il a amené un autre regard sur l'économie et surtout sur la possibilité de faire ça autrement. Et donc aujourd'hui, Marx a été déclaré de nombreuses fois mort, mais il renaît à chaque fois qu'on constate des crises économiques importantes du système et on réfléchit à une autre manière de faire l'économie et la politique.
D'accord. Bruno Coleman, économiste et professeur à l'UCL et à l'ULB, je sais que vous êtes un grand lecteur de Karl Marx. Est-ce que vous diriez aussi que c'est un Copernic de l'économie ?
Ah, en tout cas, c'est quelqu'un qui a établi ce qu'on appelle une théorie économique, et rares sont les économistes qui l'ont fait. C'est même un économiste que je vais qualifier d'implacable parce qu'il suit le tracé du travail, du capital, de la monnaie de manière tout à fait pédagogique. Et donc je pense d'ailleurs que c'est l'homme qui m'aura fait comprendre le phénomène monétaire dans les écrits du capital.
Le rôle de la monnaie dans
le rôle de la monnaie dans le capital. Maintenant, je prends Marx en tant qu'économiste, en tant que théoricien, parce que tous les apôtres de sa théorie ont conduit à des dictatures. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, et ça va vous choquer sans doute si je le dis, c'est que Marx a réussi au-delà de toute espérance. Puisque à l'époque de Karl Marx, c'est-à-dire au milieu de la révolution industrielle, l'État intervenait pour à peu près 1 à 2% de la richesse nationale. Aujourd'hui, on a dépassé 50%. Si on déterrait Marx aujourd'hui et qu'on lui montrait l'état de l'économie, il n'en reviendrait pas.
Mais en même temps, c'est quelque chose qu'il n'avait pas prévu.
Pas du tout. Mais c'est-à-dire qu'il voulait une collectivisation d'une partie des moyens de production, et ça a été abouti, puisque c'est l'État aujourd'hui qui brasse à peu près 50% de la richesse nationale.
Et c'est la social-démocratie qui l'a fait.
Voilà. Et donc c'est en fait bizarrement son successeur, Keynes, qui est né d'ailleurs quelques jours après sa mort, qui a développé la doctrine du XXe siècle, consistant à dire qu'il fallait que l'État intervienne à la marge pour stimuler l'économie. Mais en même temps, Marx a eu tort, parce que lui, qui préconisait donc l'union de tous les prolétaires au niveau mondial, a été battu par la mondialisation. La mondialisation du capital permet à des entreprises privées ou publiques de créer ou de détruire gisement de croissance dans le monde. Et donc, en fait, le capitalisme a échappé à l'État qui est devenu de plus en plus marxiste. Donc, c'est un grand paradoxe. Il a réussi, mais raté en même temps.
D'accord. Sur ce paradoxe, je vous propose, on va évidemment faire réagir David Pestiot, qui n'attend que ça, mais d'écouter l'un des économistes les plus en vue du moment, Thomas Piketty, qui était interrogé sur cet héritage de Marx dans l'excellente émission de France Culture, La Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin.
Marx prédit un effondrement inévitable du capitalisme, bon, qui de toute évidence n'a pas eu lieu. Et surtout, il s'intéresse assez peu, dans le fond, en tout cas dans ses écrits, à la question du lendemain matin. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait le lendemain matin où la révolution a triomphé, on a mis à mal la propriété capitaliste, comment on organise l'État? On peut quand même lui reprocher dans ses travaux ce côté, comme vous dites, eschatologique, c'est-à-dire qu'il prédit l'apocalypse sans se soucier de la reconstruction du lendemain matin. Alors que, pour moi, tout l'enjeu, et justement reprendre la question du capital au XXIe siècle, c'est justement d'abord essayer de comprendre tout ce qui n'a pas marché dans le capitalisme au XIXe siècle, qu'est-ce qui a provoqué ces crises, ces sentiments d'une profonde injustice, et comment le dépasser, ce capitalisme, mais pour de vrai, de façon concrète. Donc quelles sont les nouvelles formes de propriété, de limitation du pouvoir qui vont avec la propriété privée, qu'il faut développer, parce que malheureusement, comme on l'a appris au XXe siècle, là, il ne suffit pas de décréter la fin de la propriété privée pour mettre fin aux relations de pouvoir, parce que d'autres vont se saisir du pouvoir d'État, pour à la tête d'une propriété dite publique, mais qui ne conduit pas forcément à l'émancipation.
Voilà, un regard critique hein, donc de Thomas Piketty qui estime que Marx n'a pas prévu hein, ce qui allait faire les lendemains de la Révolution, ce qui a conduit finalement au fait que les relations de pouvoir sont restées au sein des sociétés qui sont réclamées de Karl Marx. Et puis il y avait évidemment la lecture avant de Bruno Coleman sur cette réussite et à la fois cet échec de Marx dans ses prévisions. Je vous en prie, David Pestiot.
Ben, je dirais d'une part... Bien sûr, le capitalisme a mis 400 ans pour s'imposer. Il a commencé à Gênes, à Venise, à essayer une première tentative. Puis on a eu en Angleterre, en Hollande. Et finalement, il s'est imposé seulement après 400 ans. Donc, permettez-moi de dire que si on veut un autre système, le socialisme, et ça c'est ma conviction, qui part la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme, il y aura beaucoup d'expérience et c'est normal que ça ne réussisse pas du premier coup. Et ça justement, Marx nous l'apprend, il fait une lecture historique de l'évolution des sociétés.
Sauf qu'il se trompe donc, hein, sur la manière dont le prolétariat et la classe moyenne, par exemple, a commencé à exister après lui, il n'avait pas du tout prévu ça.
Non, mais bien sûr, si vous allez voir les écrits de Copernic et de Darwin, il y a des tas de choses qui sont fausses. La question, c'est de savoir où allons au cœur de ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, c'est poser la question du changement de société à partir d'une critique implacable du capitalisme. Et ça me semble tout à fait vrai. Après, moi, je suis un scientifique. Il faut évidemment regarder les choses, comment elles ont évolué. Et là, je vais revenir sur plusieurs points qui ont été avancés. Pardon. D'abord, la question de l'État.
Oui.
Marx avance que l'État, c'est l'État de la classe dominante. Il ne dit pas que l'État est neutre. Et donc, quelque part, tout ce qui appartient à l'État serait alors au service de l'ensemble de la collectivité. Et je trouve que c'est très intéressant quand on dit 50% dans les mains de l'État. Non, 25%. Est dans les mains de ce qu'on appelle la sécurité sociale. Ce que, à mon avis, Marx appellerait, ce que les marxistes aujourd'hui appellent le salaire différé. C'est-à-dire, on a réussi, à travers des mouvements sociaux, à gagner une partie hein, de cette bataille sur le salaire, entre le salaire et le capital, et on l'a collectivisé. Après, il y a les dépenses de l'État. Et là, je vous dirais que, par exemple, la Belgique consacre un nombre assez grand pour aider les entreprises. Donc c'est même plus fort que d'autres États en matière de subsides, de construction, etc. Donc dire que c'est l'État au service du collectif, je serais quand même beaucoup plus nuancé là-dessus. Deux, sur la question de la mondialisation et sur la mondialisation de l'économie. Marx avance cette idée de la mondialisation et dit justement que ça va être un défi majeur pour les travailleurs de contrer ce capital qui effectivement pénètre partout. Et il appelle à l'internationalisme, il appelle au fait que les travailleurs s'unissent. Et c'est une question extrêmement importante que le mouvement syndical et le mouvement ouvrier se posent aujourd'hui, c'est-à-dire comment internationaliser. On le voit avec la question de l'Europe, on le voit avec la question des traités de libre-échange. C'est un défi majeur pour s'opposer effectivement à cette mainmise du capital sur nos sociétés.
Bruno Coleman,
au bout de la fin. Juste un point sur la mondialisation. Effectivement, dans le manifeste du Parti communiste, Marx a écrit « Travailleurs de tout pays, unissez-vous ». Eh bien, vous savez quoi? Ils n'ont pas envie de s'unir. En réalité, quand on prend le PTB, Eh bien, c'est vrai que ça la voit l'unie, mais je ne crois pas qu'ils vont s'unir avec les travailleurs de Flandre, d'Allemagne, de France ou de Luxembourg. Et donc, il avait raison de dire que son mouvement ne marcherait que s'il était appliqué à l'échelle mondiale. Eh bien, ce n'est pas le cas. En fait, même les pays communistes ont adopté un certain mode capitaliste. Donc, restons prudents, gardons en tête le fait que le progrès, aujourd'hui, est fluide, n'est plus centré sur des régions, mais que les zones de croissance évoluent au rythme du capital, et qu'il y a, c'est vrai, une lutte entre le travail et le capital, mais c'est qu'il y a un effet d'ajustement entre ces deux facteurs de production. Donc moi je dis, il y a des choses intéressantes à tirer de Marx, mais aujourd'hui la situation est qu'on a plutôt amplifié le capitalisme qu'on ne l'a contraint.
D'accord, là-dessus, 30 secondes hein, quand même.
Le capitalisme s'est amplifié, et le mouvement ouvrier s'est aussi amplifié. Il a connu, je crois qu'il a pu conquérir beaucoup de conquête, il a pu s'organiser. Du temps de Marx, il était quasiment dans ses prémices. Et donc, je crois que la vision historique, et si on reprend Marx, il faut voir l'histoire et le développement de l'histoire. Bien sûr, il y a le nationalisme, ça existe. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, des gens ne s'unissent pas que demain, ils ne peuvent pas le faire. Et ça, c'est effectivement le travail qu'on fait comme parti politique, c'est d'essayer de changer les choses. Et Marx avait cette ambition de changer les choses. Et je crois qu'il était contre tout fatalisme et toute idée que c'est toujours comme ça, que ça a toujours été.
Merci.